Bonsoir à tous. Un pont suspendu s'effondre dans le Tarn, un camion et une voiture tombent dans la rivière, deux morts et des questions, pas tant sur l'état de l'ouvrage, régulièrement surveillé et a priori sans problème de sécurité, mais sur le poids du camion, vraisemblablement bien au-delà des 19 tonnes autorisées. Nous sommes sur place, dès le début du journal. Des manifestants qui fuient la police en rappel, puis à moto, la contestation de plus en plus violente à Hong Kong. La police menace de tirer à balles réelles. Au sommaire également ce soir, l'écrivaine Ariane Fornia, accusée de diffamation par Pierre Jox. La peur, Rassemblement National en Outre-mer, à l'ouverture du congrès des maires. Thomas Coville, à son tour, victime de casse sur la course à la voile Brest-Atlantique. Et au téléphone sonne Fabienne.
On parle des étudiants pauvres ce soir, Sébastien. Comment améliorer la situation de ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté? Selon certains chiffres, ils sont jusqu'à 20%. Revoir les bourses donc, imaginez peut-être un revenu, c'est à vous de nous le dire. Et ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il mesurait 155 mètres de long et 6,50 mètres de large. Il permettait de traverser le Tarn près de Toulouse. Le pont de Mirepoix-sur-Tarn s'est donc effondré ce matin peu après 8 heures. Un camion et une voiture qui arrivaient en face sont tombés dans la rivière. Il y a deux morts. Le corps du chauffeur routier a été retrouvé coincé dans la cabine très abîmée du camion d'après le maire et les pompiers. Mais le bilan aurait pu être bien plus grave. Un bus scolaire est passé sur le pont juste avant dans lequel se trouvait la fille d'Ingrid.
Ma fille m'a appelée vers 8h15 pour m'informer que le chauffeur de bus venait d'avoir un message comme quoi le pont de Mirepoix s'était effondré. Elle m'a dit « on est passé juste avant ». Donc je l'ai rassurée en lui disant qu'on en parlerait ce soir. Elle était choquée. On dit qu'on a eu une bonne étoile. Je suis très peinée pour les gens qui étaient sur le pont et je me dis que ça aurait pu être bien plus grave si le bus avait été aussi sur le pont à ce moment-là. Moi qui emprunte quasiment tous les jours le pont de Gagnac, c'est une sablière qui est juste à côté. C'est emprunté par des poids lourds qui sont ultra chargés et qui ne respectent pas les consignes de sécurité et de distance. Une fois, je me suis retrouvée là où ça a lâché, vous voyez, comme sur le pont suspendu au début du tablier. Et je vous assure qu'on sent que le pont bouge, quoi.
Voilà une mère de famille qui passe le Tarn plusieurs fois par jour chez nos confrères de France Bleu Occitanie. On l'entend parler des poids lourds qui utilisent ces ponts et celui de Mirepoix qui se trouve d'ailleurs sur le département de la Haute-Garonne et non dans le Tarn, comme je l'ai dit à l'instant. Bonsoir Stéphanie Iglesis.
Bonsoir Sébastien Pao, bonsoir à tous.
L'enquête tira les causes de l'accident Stéphane, mais le pont suspendu était interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes. Or, d'après nos confrères de France Bleu Occitanie, le camion qu'il a emprunté ce matin était probablement deux fois plus lourd Stéphane.
Oui, le camion porte-engin avec son chargement, c'est-à-dire avec un engin dessus, était trop lourd, peut-être 44 tonnes. Les autorités ne confirment pas ce tonnage ce soir. Ce qui est sûr, c'est qu'il était trop lourd. Or, les panneaux routiers, vous l'avez dit, le précisent bien. Ce pont est interdit aux poids lourds de plus de 19 tonnes. Se trouvait sur le pont au moment où il s'est effondré, à la fois ce porte-engin trop lourd, mais aussi une Clio blanche avec une mère et sa fille de 15 ans. La mère a pu être sauvée par des passants, mais malheureusement pas sa fille, qui est décédé. Les plongeurs et des sapeurs-pompiers ont cherché toute la journée d'autres éventuelles victimes. Ils sont allés aussi dans la carcasse de ce camion qu'ils ont fini par retrouver et ils ont localisé le corps du chauffeur. Et ce corps du chauffeur qui, évidemment, est décédé. Les habitants, comme le maire d'ailleurs, Éric Auger, soulignent qu'ils voyaient souvent sur ce pont des poids lourds qui n'avaient vraiment rien à y faire, qui passaient plusieurs fois par mois au moins. Le maire l'a signalé à la gendarmerie et il explique qu'avec sa pauvre police municipale, il ne peut pas faire la police tout le temps sur ce pont, Sébastien.
Sur l'ouvrage en particulier, sur ce pont, Stéphane, il datait du début des années 30, mais il était régulièrement inspecté.
Ah oui, le pont date de 1935, mais insiste le maire, comme d'ailleurs le président du conseil départemental Georges Méric, ses haubans ont été refaits en 2003. Il a bénéficié d'un audit technique très poussé du département en 2017, qui n'a rien révélé d'anormal. Et il y a eu aussi des travaux d'entretien très réguliers. Les derniers ont d'ailleurs eu lieu il y a exactement un an. Donc apparemment, le pont était en bon état. C'est pour ça d'ailleurs que dès ce matin, la section de recherche de la gendarmerie de Haute-Garonne, qui est chargée de l'enquête, a perquisitionné l'entreprise de forage dont venait le camion. Comme l'a dit le procureur de Toulouse, les enquêteurs cherchent à la fois le tonnage exact du camion avec son engin de chantier, mais aussi sa destination. L'hypothèse la plus probable donc ce soir, c'est que le pont ait cédé sous le poids de ce camion, comme de tous ceux d'ailleurs qui l'empruntaient et qui n'auraient jamais dû le faire.
Stéphane Iglesias, merci. En direct de Mirepoix-sur-Tarn, donc en Haute-Garonne. Les secrétaires d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, et à la transition écologique, Emmanuel Wargon, sont allés sur place. On rappelle le bilan, donc deux morts, une adolescente de 15 ans, vous en parliez, qui était dans la voiture avec sa mère, qui elle a pu être sauvée, et le chauffeur du camion dont le corps vient donc d'être retrouvé à l'intérieur du poids lourd.
Barricade contre barricade.
Hong Kong s'enfonce encore un peu plus dans la violence. Après plus de 5 mois de contestation du pouvoir chinois, c'est désormais l'université polytechnique qui est le siège de la plupart des affrontements. Des manifestants retranchés et les lieux encerclés par les forces de l'ordre qui empêchent toute sortie à coups de gaz lacrymogène et de lanceurs de balles en caoutchouc. Sauf que plusieurs dizaines de manifestants ont réussi à s'enfuir tout à l'heure d'une manière particulièrement spectaculaire, Dominique André.
Des dizaines de protestataires ont profité de la nuit pour s'enfuir du campus de Polytechnique assiégé. Ils sont descendus en rappel depuis une passerelle, puis ont été récupérés sur une route en contrebas par des motards. Il est difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur du campus où des centaines de jeunes manifestants sont retranchés. Ce soir, le président de l'université de Polytechnique, le professeur Tang, a fait une déclaration pour demander aux étudiants de cesser l'occupation du campus.
Nous avons maintenant reçu l'assurance de la police d'une suspension temporaire de l'usage de la force. Nous avons reçu la permission pour vous de quitter le campus en toute sécurité et je vous accompagnerai personnellement à la station de police pour être sûr que vos cas seront examinés équitablement.
Dans les rues autour du campus, y compris sur la grande avenue commerçante de Nathan Road, une chaîne humaine s'est organisée aujourd'hui.
Je suis une ancienne étudiante de Polytechnique. Cette situation est incroyable. Je ne peux pas dire qu'il y ait une raison qui puisse justifier l'action de la police contre les jeunes et la situation dans laquelle le campus est plongé.
Que va-t-il se passer la nuit prochaine? Y aura-t-il une nouvelle tentative d'assaut de la police contre le campus? Si la situation devient incontrôlable, le gouvernement central ne restera certainement pas sans rien faire, a déclaré l'ambassadeur de Chine à Londres. Hong Kong, Dominique André, France Inter.
Bruxelles appelle ce soir de nouveau à la retenue.
L'affaire remonte à 2010, mais ce ne sont pas les faits qui sont jugés, Sébastien.
Non, ils sont prescrits. Le procès qui avait lieu aujourd'hui au tribunal de Paris, c'est le procès en diffamation. L'ancien ministre de Mitterrand, Pierre Joxe, contre l'écrivaine Ariane Fornia, fille de l'ancien ministre Éric Besson. Elle l'accuse d'agression à l'Opéra Bastille de Paris, c'était il y a plus de 9 ans. Il soutient qu'elle a tout inventé. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
Et chacun, aujourd'hui, a campé sur ses positions à l'audience.
Cheveux blancs, costume gris, Pierre Joxe s'avance à la barre. Madame Besson, c'est le nom... Ariane Forna est son nom de plume, elle s'appelle Alexandra Besson, m'a diffamée, injuriée, me traitant de lâche, de menteur. Jamais de la vie, je ne me suis comportée ainsi, s'offusque-t-il. Il pointe des erreurs dans le récit de la jeune femme et demande la suppression de ses propos qui le blessent. Mais ses propos, Alexandra Besson les réitère. Elle raconte les caresses sur ses cuisses qu'elle repousse. La jeune femme dit s'être trompée. Non, il n'y avait pas d'entracte à l'opéra ce soir-là. Mais sur le reste, elle persiste et signe.
J'ai pu porter une parole devant ce tribunal, j'ai pu raconter ce qui m'était arrivé, j'ai pu dire pourquoi j'avais témoigné, pourquoi il était important que je porte cette parole. Et maintenant, nous attendons le résultat, mais quoi qu'il en soit, je suis heureuse d'avoir porté cette parole, je suis heureuse d'avoir ouvert cette brèche. Et je sais que si je suis la première, je ne serai pas la dernière, et qu'il y aura d'autres femmes qui témoigneront contre Pierre Joxe.
À l'audience, Éric Besson, son père, tout en colère froide, évoque le cas d'une jeune femme abusée en 90 qui refuserait de parler, d'une aide-soignante qui, elle, a porté plainte, accusation balayée par l'avocat de Pierre Joxe, maître Jean-Yves Dupeux.
C'est quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'est Pierre Joxe. J'ai rappelé que c'est quand même un grand personnage de la Ve République. Il a quand même beaucoup donné pour le respect des droits des femmes, des droits des enfants. Tout cela le meurtrit beaucoup. En réalité, il a 84 ans et il a beau en avoir vu beaucoup pendant sa carrière politique, il est très meurtri par tout ça.
Pierre Joxe demande 1 euro de dommages et intérêts et une publication dans la presse réponse du tribunal le 22 janvier.
Le 22 janvier, en effet, merci Corinne Audouin. C'est une affaire de pédophilie inédite en France. 250 victimes identifiées, des viols et des agressions sexuelles sur des patients mineurs pendant plus de 30 ans de carrière dans le centre et l'ouest de la France. Le chirurgien de Jonzac sera jugé aux assises de Charente-Maritime en mars prochain. Il est aujourd'hui à la retraite, bien sûr, incarcéré depuis sa mise en examen il y a 2 ans. Les organisations étudiantes reçues par le ministre de l'Enseignement l'enseignement supérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, 10 jours après l'immolation d'un étudiant de 22 ans qui voulait dénoncer sa précarité. Il est toujours en coma artificiel dans un état stationnaire, selon ses proches. Et la colère sur les campus ne faiblit pas. On en parlera tout à l'heure au téléphone sonne. Le site principal de l'université de Bordeaux-Montaigne, fermé à cause du blocage du site. Et le Crous de Normandie, incendié, Nolwenn Lejeune, la nuit dernière à Caen.
Ce sont les veilleurs de nuit qui ont donné l'alerte vers 1h30 du matin. Les pompiers, en arrivant, ont trouvé le hall d'entrée du bâtiment complètement enflammé. Leur intervention rapide a permis de contenir le feu pour qu'il ne se propage pas aux étages. Mais le bâtiment est pour l'heure inutilisable. Une cinquantaine de personnes y travaillent. Elles ont été priées de rester chez elles le temps de nettoyer et de sécuriser les lieux. Une permanence a été mise en place sur un autre site du campus pour accueillir les étudiants. Un tag a été retrouvé sur place. La phrase « La précarité tue » peinte en jaune sur un mur extérieur. On ne peut que condamner ce type d'actes, s'indigne Virginie Catherine, la directrice générale du Crous Normandie.
D'autant plus que les Crous, on est vraiment là pour les étudiants, on est vraiment là pour lever tous les obstacles à ce qui pourrait empêcher la réussite des étudiants, on est là pour les accompagner, on est là pour leur donner des aides financières, il y a la restauration sociale, il y a voilà, tout ce qu'on peut faire pour les étudiants, on le fait, donc c'est vrai qu'on ne peut que condamner de tels actes vis-à-vis d'un Crous.
Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du sinistre.
C'est un objectif de la loi Egalim, 20% de produits bio en restauration collective d'ici la fin du quinquennat. Objectif en vue d'après l'agence bio. Bonsoir Manuel Ruffez. Grâce à plusieurs stratégies pour réduire les coûts.
Oui, ça progresse vite surtout. On n'est encore qu'à 4,5% du marché de la restauration collective. Mais avec une croissance en un an de 28%. Et le bon élève relève Florent Gull, le directeur de l'agence bio. Ce sont les cantines scolaires.
C'était déjà le meilleur score, mais aujourd'hui, on a pas loin de 80% des établissements scolaires qui ont commencé l'introduction des produits bio. Par contre, il y a des établissements où ça n'avance pas beaucoup, notamment le domaine social et médical, où on est encore dans une situation où cette introduction de produits bio reste marginale. Un tiers des établissements seulement ont commencé un peu d'introduction de produits bio.
Et oui, le surcoût reste le principal frein, 20% en plus, compensé par une chasse au gaspillage ou même par des repas végétariens. Malgré tout, et c'est le constat que fait le président de l'agence bio, Philippe Henry, la dynamique est verte. Vertueuse notamment pour l'agriculture.
On a passé 50 ans à spécialiser notre agriculture et là on va dans une démarche inverse, c'est-à-dire on va la rediversifier. Les cantines vont demander des produits différents, des fruits, des légumes, du lait, de la viande. On va avoir sur les territoires des gens qui vont reproduire du lait, des légumes, des fruits, de la viande. Voilà. Diversifier demain l'agriculture, c'est la rendre résiliente, notamment aux changements qui s'annoncent, climatiques entre autres, et puis de biodiversité également.
Voilà, cet article 24 de la loi Egalim a un an. La part de bio augmente de manière spectaculaire, mais le chemin est encore long jusqu'au 20%.
Manuel Ruffez, Lubrizol veut relancer son usine de Rouen avant la fin de l'année, au moins en partie. La direction souhaite une reprise partielle de son activité de mélange sans réaction chimique. Elle devrait déposer un dossier au préfet rapidement. Voilà qui ne va pas adoucir le ton à un peu plus de 2 semaines de la journée du 5 décembre. Ce rapport de la Cour des comptes sur les ressources humaines à la SNCF. D'après ce texte, les cheminots sont encore trop nombreux, coûtent trop cher et ont une productivité trop faible. Les avocats annoncent de leur côté une journée justice morte le 5 décembre contre le projet de réforme des retraites. Quant aux internes en médecine, ils sont appelés à rejoindre la grève illimitée pour l'hôpital à partir du 10 décembre. Le gouvernement promet un plan d'urgence pour mercredi.
Une ambiance plus apaisée au Congrès des maires.
L'Association des maires de France se réunit pour 4 jours à partir d'aujourd'hui. Et cette année, Emmanuel Macron fait le déplacement. Forcément, les municipales approchent avec un discours demain après-midi. Alors en attendant, Maxence Lambrec, une première journée à la mutualité consacrée aux Outre-mer, où la peur Rassemblement National inquiète de plus en plus d'élus.
En Outre-mer, le parti de Marine Le Pen est arrivé pour la première fois en tête d'une élection. C'était au printemps, lors des européennes. 27% des voix en Guyane, par exemple, où le président de l'association des maires, David Richer, se sent démuni.
Bien sûr, ça m'inquiète. Si les partis échouent les uns après les autres, inévitablement, c'est ce qui se passe. C'est pas que en Guyane, c'est partout dans les Outre-mer. C'est bien l'endroit où ce score devrait être le plus faible. On voit bien qu'il est en constante progression parce que les gens en ont marre.
Un ras-le-bol que comprend bien François Baroin, ancien ministre des Outre-mer, aujourd'hui patron de l'Association des maires de France.
Ces problèmes de frontières, les problèmes d'insularité, les problèmes de tension, les douleurs sociales, les retards en matière de logement social, d'infrastructure, d'accès au numérique, créent les conditions d'un sentiment parfois d'abandon et de telle sorte que parfois on a envie de renverser la table.
Renverser la table au municipal ? Non, Marine Le Pen manque d'implantation, de figure locale et pour le maire de Dzouadzi l'abattoir à Mayotte, Saïd Omar Wali, l'État a fait le nécessaire.
Aujourd'hui, l'État a fait un effort considérable, 1,6 milliard. Donc je ne vois pas comment aujourd'hui les extrémistes de Marine Le Pen pourrait gagner une mairie à Mayotte. Je n'y crois pas.
La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est plus prudente et suit tout cela de très très près, d'autant que Marine Le Pen prépare une tournée aux Antilles.
Reportage Maxence Lambrecq. Google a-t-il modifié son algorithme pour favoriser Facebook ou Amazon? C'est l'une des questions posées par l'enquête que vient de publier le Wall Street Journal. Google, ce sont des millions de requêtes par minute. L'entreprise a toujours refusé de donner les détails de son algorithme. Mais ce qui ressort du travail du quotidien américain, bonsoir Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir.
C'est que la firme californienne interfère bien plus qu'elle ne veut l'admettre avec les résultats des recherches.
Et oui, l'algorithme booste les géants comme Amazon ou Facebook. Il favorise aussi eBay, le site de vente aux enchères en ligne, qui est client de la régie publicitaire de Google. Tout ça se fait au détriment des sociétés les plus modestes. Alors il faut savoir que Google emploie des milliers de sous-traitants. Leur but, certifier la qualité des algorithmes. Ça, c'est la version Google. Mais dans la bouche des employés, ça donne autre chose. Google leur a donné des instructions pour convenir, je cite, d'un classement correct des occurrences. Correct, comprendre, subjectif. Google fait aussi le tri dans les propositions, selon le Wall Street Journal, édulcoré, plus aseptisé que d'autres moteurs de recherche sur des sujets sensibles comme l'immigration ou l'avortement. Et puis il y aurait aussi ces listes noires, des listes pour supprimer ou empêcher certains sites d'apparaître. Le géant dément catégoriquement.
Google qui est déjà intervenu sur son algorithme pour un cas spécifique en France.
Oui, c'était en 2012. Google a passé un accord confidentiel avec des groupes qui avaient pointé l'antisémitisme. Selon eux, de certains résultats, le mot juif apparaissait quand on tapait le nom de politiciens français. Google a ainsi accepté d'atténuer algorithmiquement ses suggestions. Ces dernières années, Google a bien modifié ses algorithmes pour faire disparaître les remarques sensibles et désobligeantes. La politique est, cette fois-ci, assumée.
Louis-Valentin Lopez qui vous donne encore plus d'infos sur franceinter.fr. Merci. En bref, encore à l'étranger, ce chiffre effrayant des Nations Unies, 103 000 enfants en détention en ce moment aux États-Unis en lien avec l'immigration, certains avec leurs parents, certains seuls. Et puis la commission von der Leyen au complet, les eurodéputés valident la candidature hongroise au poste de commissaire à l'élargissement. Le vote d'investiture de la nouvelle équipe devrait donc pouvoir avoir lieu dans 10 jours au Parlement. 29 000 foyers encore privés de courant après la neige en Rhône-Alpes, dans la Drôme, l'Ardèche, l'Isère et le Rhône. 2 200 foyers sans électricité également dans le Doubs et la Haute-Saône. 1 000 enfin dans des communes de montagne de l'Est des Vosges. On fera le point météo tout à l'heure avec Élodie Calac. Mais reportage d'abord ici à Saint-Simion de Bressieux, dans le Nord-Isère, avec Nina Valette.
Chez Philippe, pas d'électricité, pas d'eau chaude et une partie des volets sont électriques et donc bloqués en bas. Mais pour l'Isérois, ce n'est pas ça le plus difficile.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épaisseurs. Sinon, tient pas.
Alors, depuis, avec sa femme, ils s'organisent comme ils peuvent.
La frontale, oui, ça c'est primordial. Faire des choses, la vaisselle ou autre. Le frigidaire, il est là, vous voyez. Une fois que le foie est rentré, on a refermé les glacières pour garder les produits au frais.
Direction la mairie donc pour faire le point. Une mairie injoignable à cause des problèmes de téléphone. Sur place, une mère de famille a les nerfs qui lâchent.
J'ai dit aux gosses, on dort tous ensemble, on se tasse dans un lit, on va miser sur la chaleur humaine, on va fermer les portes, on va prendre le chien sur nous. Ça, je vis comme une clocharde chez moi. Allez mon chien, viens te coucher sur mes jambes. C'est froid, j'en peux plus.
Face à elle, c'est Armelle Savignon, la première adjointe de la commune de Saint-Siméon de Bressieux. Elle tente d'apaiser les choses.
C'est légitime, mais il faut aussi avoir un petit peu de respect pour les gens qui se sont défoncés pour essayer de remettre le maximum de foyers en route le plus rapidement possible.
Une petite salle communale a été ouverte pour les familles qui souhaitent recharger les batteries dans tous les sens du terme. Mais le problème de téléphone ne permet pas de faire passer l'information à tous les habitants.
On termine avec une nouvelle casse sur la course Brest-Atlantique, cette course à la voile, réservée aux ultimes d'une trentaine de mètres, les trimarans géants et volants, cette fois sur le bateau de Thomas Coville, de Jean-Luc Nélias et de Martin Kérusoré, safran tribord cassé après un choc avec un objet flottant non identifié, un ovni, comme disent les marins. C'est le troisième accident sur les 4 bateaux qui sont partis de Brest il y a 2 semaines. D'où cette question, Thomas Lavaux, ces géants sont-ils trop fragiles?
Quand il a percuté cet ovni, Sodebo progressait à 35 nœuds. Le risque de casse lors d'un choc est forcément plus grand à cette vitesse. Mais les ovnis ont toujours existé, donc plus qu'un problème de vitesse ou de solidité, c'est sur leur prévention que les ultimes doivent s'améliorer, selon Vincent Loriot-Prévost, architecte naval à Vannes.
Est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de travailler sur des systèmes de sonar qui pourraient identifier des dangers dans un rayon d'action de 400-500 mètres, par exemple, et qui soient suffisamment fiables pour qu'on puisse dévier la trajectoire et ne pas la rencontrer? Et la deuxième chose qui est importante pour nous aussi, c'est d'avoir des bateaux équipés de capteurs.
Des capteurs que le cabinet de Vincent Loriot-Prévost a déjà posés sur l'IMOCA Hugo Boss 7, accidenté lors de la dernière Transat Jacques Vabre. Les informations recueillies vont permettre de rendre le bateau moins vulnérable à l'avenir.
Maintenant, là où il faut qu'on continue de progresser, et tout ça, c'est un peu des problèmes de long terme, c'est de savoir comment prévenir et qu'est-ce qu'on accepte comme seuil de fragilité et où ça se passe.
Sodebo Ultime 3 va s'arrêter au Cap, puis repartira, comme l'a fait Massif à Rio, comme l'a fait aussi Edmond de Rothschild, de nouveau dans la course à la victoire après son avarie.
Oui, on rappelle que cette course Brest-Atlantique, c'est la 4 points de passage, Brest le départ, Rio le Cap, et on remonte à Brest.
Voilà, 4.
Ça va très vite.
Ouais,
quatre,
comme vous dites,
bateaux,
ça va très vite, comme vous dites, Sébastien Pagot, merci
mais
beaucoup.
Mais ça casse parfois.
On se retrouve demain. Des fois, il y a des ovnis, si j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit. Le temps de regarder quel temps il fait pour demain, on ira ensuite se préoccuper du sort des étudiants pauvres dans le téléphone sonne. Allez.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et le Dicalac, un temps calme prévu demain, mais souvent encombré.
Oui, sur la Corse, la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, on aura quand même des averses et de l'orage possible, de la neige vers 800 mètres sur les Alpes-Maritimes, et puis ailleurs, un réveil souvent gris, notamment entre le Massif central, Rhône-Alpes, le Nord-Est, peut-être quelques gouttes ou alors quelques flocons au-dessus de 700-800 mètres. Du nord de la Seine vers la région parisienne, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest et la basse vallée du Rhône, pas mal de nuages également, plus d'éclaircies tout de même de la Normandie au Hauts-de-France et des Pyrénées au Roussillon. L'après-midi sur ces régions, ça s'arrangera doucement. Des éclaircies assez belles se développeront. Et puis attention, dans les Landes, c'est calme, mais la Dour est en vigilance orange pour une crue importante.
Et puis il fera toujours bien frais.
Moins 1 à 4 degrés le matin. L'après-midi, 4 petits degrés à Metz, 7 à Lille, Strasbourg, Paris, 7 aussi à Châteauroux, Clermont-Ferrand et Grenoble, 9 à Cherbourg et à La Rochelle, 11 degrés pour Brest, Biarritz, Marseille, et on ira jusqu'à 16 en Corse.
Allez, c'est noté. Élodie Calac de Météo France. Merci beaucoup.